Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc voyez le contexte, les disciples qui ont déjà vécu avec Jésus, ils lui demandent « Apprends-nous à prier ». J'aimerais dire qu'il y a dans la prière quelque chose de mystérieux. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, comment se fait-il que Dieu souverain, qui règne sur toute chose, qui fait ce qu'il veut, comment se fait-il qu'il nous demande de prier ? Est-ce qu'il a besoin de nos prières ? Lui qui est souverain, qui fait ce qu'il veut, que tu pries ou pas, on peut se demander. Et en même temps, il nous dit, bah oui, prie, prie. Ça, c'est un mystère. Le paradoxe entre la souveraineté de Dieu et puis l'appel à prier, comme si rien ne bougerait si on ne prie pas. C'est étonnant, quoi. C'est étonnant. Alors, nous avons... Et là, il y a un mystère, mes amis. Il y a vraiment un mystère. Alors, il y a parfois les deux attitudes. Il y a l'attitude de celui qui va être fataliste, qui va dire, il n'y a pas besoin de prier, Dieu règne, Dieu fait ce qu'il veut, il est bon. Et puis, voyez, il ne prie pas. Dieu fait ce qu'il veut, voyez. Donc, et puis, il y a celui qui pense que tout va dépendre de sa prière. Et il est angoissé, il prie parce qu'il dit, si je ne prie pas, je ne vais pas être béni, il ne va pas se passer. Donc, on a les deux extrêmes. Et dans le Notre Père, il y a vraiment, Jésus révèle une prière. Et cette prière correspond à une nouvelle révélation. Les Juifs avaient l'habitude de prier. Hein. Ils priaient trois fois par jour au moins. Et ils priaient les psaumes, ils priaient la Bible, ils connaissaient les Écritures. Voilà, c'était un peuple qui priait. Et pourtant, Jésus, les disciples disaient, enseigne-nous à prier. Eux qui savaient prier quelque part. Mais une nouvelle dimension, et c'est ce qu'on va voir un peu, et ce n'est pas une prière, le Notre Père, mais c'est la prière. C'est pas pareil. Hein. Vous avez les prières, et vous avez la prière. Et c'est celle enseignée par Dieu lui-même. C'est quand même impressionnant. Aucun passage des Écritures ne donne une telle version de la prière. Et cette prière, elle révèle en plus le dessein de Dieu pour l'homme. Donc c'est Dieu le Fils qui nous apprend à adresser à Dieu le Père, par Dieu le Saint-Esprit, une prière. Donc c'est la Trinité quoi, qui nous invite, qui nous initie à prier. Donc juste avant d'aller plus loin, j'aimerais un petit feedback. Là, si vous aviez à définir la prière par une phrase, quelque chose qui est important pour vous, que vous expérimentez, qui est pour vous votre définition, qu'est-ce que vous diriez ? Alors j'aimerais du retour. Hein, donc la prière, une phrase, qu'est-ce que vous diriez ? Allez-y, parlez à Dieu. Ensuite, langage d'intimité à Dieu. Pardon ? Le combat, prière de combat en persévérant. Oui ? Un cri du cœur. Se tenir à la brèche. C'est marrant. Vous avez remarqué, les définitions que vous donnez de la prière, c'est que ça vous définit aussi. Les intercesseurs, là, on le voit tout de suite. Combat, la brèche, tu sais. L'autre, l'intimité, le cœur. Ouais. Allez, on continue.
Reconnaissance.
Un cœur à cœur. La prière, c'est la reconnaissance et le cœur à cœur. Ensuite, relation. Relation, mot important d'amitié. Dieu ami. Conversation. Oui. D'autres choses. Adoration. En fait, il y a plein de sortes de prières. Hein. Le reconnaître. Connaître une deuxième fois. Hein, qu'il est vivant. Donc, bon... On voit dans ce Notre Père tout ça, mais en particulier, on voit tout ce que vous avez dit, mais il y a cette notion de relation qui me semble déterminante. J'aimerais vous donner quelques... Moi, il y a des hommes de Dieu là qui ont donné des définitions qui sont... Boum ! Ça fait réfléchir. Je vous en donne quelques-unes. Augustin, donc c'est au 4e siècle. La prière est le plus grand rempart de l'âme. Un rempart. C'est étonnant, hein, comme un rempart. Ensuite, 7e siècle, la prière est la mère de tout bien spirituel. Acquiers la mère et tu auras sa descendance. C'est étonnant comme Martin Luther. Alors lui, aujourd'hui j'ai tellement de choses à faire que je dois d'abord consacrer 2 à 3 heures à la prière. Donc plus il avait de job, plus il priait. Calvin, les paroles sont incapables d'expliquer à quel point la prière est nécessaire. Dieu est cependant inactif, comme s'il nous oubliait, quand il nous voit oisifs et muets. Donc là, l'idée que Dieu ne fait rien sans la prière. C'est Fénelon, la tiédeur de nos prières est la source de toutes nos autres infidélités. La tiédeur de nos prières est la source de toutes nos infidélités. John Wesley, moi je crois que plus de personnes sont rentrées dans le royaume de Dieu par mes prières que par mes prédications. Ça, c'était connu comme phrase. Voilà. William Booth, Armée du Salut. Travaillez comme si toute chose dépendait de votre travail et priez comme si toute chose dépendait de vos prières. Vous voyez, donc ce n'est pas la prière au détriment de l'action. Hein, c'est les deux. Les deux. Voilà, Charles de Foucault, un catholique, un père qui était en Afrique. Prier, c'est surtout penser à Dieu en l'aimant. Et plus on l'aime, et mieux on prie. C'est une question d'amour, la prière. Voilà. La prière ne nous rend pas capables pour de grandes actions. La prière, c'est l'action. Parce que Dieu agit quand on prie. Enfin voilà. Donc, ça c'est une introduction. Maintenant, j'aimerais parler d'une autre paire, le début. Je pense qu'il y a ce culte, le culte prochain, on en parlera aussi au niveau de cette prière-là. Mais l'expression « notre Père », je ne sais pas si vous êtes arrêté dessus, mais déjà la notion de Père. Alors j'ai un peu cherché, mais il semblerait que dans l'Orient ancien, la notion de Père, nous sommes au deuxième millénaire, hein, la divinité, on n'est pas du tout dans le Dieu des Hébreux et tout ça, hein, la divinité, en général, l'expérience qu'avaient les gens, vous savez que Dieu se manifeste aussi par une révélation générale. Il parle à tous les hommes. Alors les hommes, ils tâtonnent, hein, ils cherchent Dieu. Mais ce Dieu était souvent invoqué sous le nom de Père. Donc c'est quelque chose d'assez commun. Et on a trouvé des tas de prières où Dieu est vu comme un Père. Et d'ailleurs, un Père qui a un cœur maternel. Donc c'est intéressant. L'origine, avant même les prophètes, les Hébreux, il y avait cette idée d'un Dieu qui est à la fois père et mère. Alors bien sûr, avec des tas d'idolâtrie, tout ce que vous voulez. Mais l'idolâtrie, c'est toujours quelque chose une idée tordue. Mais il y a quelque chose là. Alors quand arrive la révélation avec le peuple hébreu, dans l'Ancien Testament, on va trouver la désignation de Dieu comme père, pas trop souvent, mais quand même. Quand on connaît l'Ancien Testament, au moins 14 fois, Dieu est décrit comme un père. 14 fois, au moins. Et pas les moindres. Parce que ce Père, c'est celui qui les a délivrés. C'est celui qui est rentré dans l'histoire. Ce n'est pas quelque chose de désincarné. C'est vraiment celui qui les a délivrés de l'esclavage. C'est avec des puissantes manifestations. Ça, c'est ce Père qui agit. Donc déjà là, on va trouver ce mot Père. Et puis les prophètes. Alors chez les prophètes, on voit la notion de Père. Et là, un sens absolument étonnant, une profondeur de la compréhension de ce qu'est le Père, déjà dans l'Ancien Testament. Regardez, Malachie 1, c'est le prophète Malachie, Dieu, qui va dire « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, dit Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées? À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi n'avons-nous méprisé ton nom ?» Donc là, le prophète dit « Dieu est un père et comme tout père, il a droit à l'honneur. Et où est l'honneur ? Donc, voyez, cette relation du Père à qui l'on doit l'honneur. Donc, il décrit Dieu comme un Père. Et la réponse d'Israël a souvent cette accusation, souvent de s'éloigner. À maintes reprises, Israël s'éloignait, était dans l'incrédulité. On retrouve ça, Ésaïe 63, etc., 64, on retrouve ça. C'est à toi, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Hein ? qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. C'est toi notre Père. Donc ça, on le retrouve plusieurs fois dans les Écritures. Alors à ce cri, eh bien Dieu répond vraiment comme un père avec la tendresse paternelle, une tendresse d'un père qui accueille, qui ne condamne pas. Regardez par exemple Jérémie 31. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices ? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Les entrailles du Père, voyez ? Ça, on le retrouve dans l'Ancien Testament. Alors, Jésus arrive et il enseigne notre Père. Alors, qu'est-ce qui est de nouveau ? Vous allez me dire, déjà, l'Ancien Testament avait une révélation de la paternité de Dieu étonnante. Et j'aimerais vous dire ce qui est fondamentalement nouveau dans le Notre Père. Donc, il y a quelque chose d'unique dans la prière du Notre Père, même si elle s'enracine dans une tradition. Il y a quelque chose d'absolument unique. Et il y a un moment, chaque fois que Jésus emploie le mot « Père », c'est un mot qui n'est jamais utilisé dans l'Ancien Testament. C'est le mot « Abba », « Papa ». Alors les Juifs le connaissaient. C'est les enfants qui appellent leur papa « Papa ». C'est les premiers mots « Papa »,« Maman ». Le Talmud dit ceci, « Lorsqu'un enfant goûte au froment, donc il est sevré, hein, il apprend à dire « Abba » et « Imma ». C'est les premiers enfants. Donc « Abba », c'est le terme puéril, un enfant à son papa, le terme quotidien. Mais personne n'aurait osé appeler Dieu « Abba » avant Jésus. Personne. C'était trop familier. C'était trop puéril, voyez. Donc Jésus, là, il révolutionne. Rien que les premiers mots, « Notre Père », bam. Alors, vous avez, sur la croix, Jésus, il a dit « mon Dieu », et là, ce n'est pas le mot « Père », ce n'est pas le mot « Abba », mais il a cité un psaume. C'est pour ça que « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un psaume, c'est le psaume 22, qui termine par une grande victoire. Donc, il a débuté à parler de ce psaume. Donc, c'est pour ça qu'il a employé le mot « Dieu », là, qui n'est pas le mot « Père ». Mais quand Dieu s'adresse à son Père, c'est toujours « Abba ». Et ça, c'est la grande nouveauté. Dans Matthieu 11, lorsqu'il dit « Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc, la mission de Jésus, c'est faire connaître le Père. C'est sa première mission. Tout est là, tout est là. C'est pas d'abord faire des miracles. C'est pas d'abord ceci. C'est faire connaître le Père. Abba. Donc, le Notre Père, ce n'est pas seulement un mot nouveau, le Abba, qu'on emploie pour Dieu, mais ce qui est étonnant, c'est que Jésus, là, il va communiquer à ses disciples, à tous les siens qui croient en lui, le droit d'appeler Dieu Abba, comme lui. Alors ça, c'était... Non, on ne se rend pas compte, là, mais à l'époque, c'était choquant. C'était choquant. Vous voyez, il y a une proximité choquante. Et lorsqu'il dit en Matthieu 18, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc les enfants, eux, ils savent dire Abba. Et quand ils disent Abba, eh bien c'est le chemin du royaume. Et dans le Abba, il y a la filiation, il y a la confiance, il y a la sécurité. Et c'est le premier mot, notre Père. Et ça n'allait pas de soi, ce premier mot, pour l'Église primitive. Ça n'allait pas de soi. Donc maintenant, alors on a parlé du Père, maintenant notre Père. Et pourquoi pas mon Père ? Hein, on pourrait dire, tiens, pourquoi la prière, ce n'est pas mon Père ? Et pourquoi c'est notre Père ? Eh bien, parce qu'il nous apprend à dire nous, parce que nous, c'est la famille. Et le Père parle de famille, rien que le mot Père parle de famille. Et donc le nous... Ça brise tout individualisme. Bien sûr que Dieu est mon Père, mais on a été enseigné à prier notre. La culture de Jésus n'est pas une culture de la relation seulement personnelle avec Dieu, mais c'est une relation communautaire. Et le Notre Père était une prière communautaire. Donc, il y a des prières qui sont des prières individuelles, on en trouve dans les psaumes, mais il y a des prières qui se prie collectivement, ensemble. Et ça, c'est une des forces de l'Église primitive qui avait, il y a des hymnes qu'on trouve dans le Nouveau Testament, Colossiens chapitre 1, etc. C'était des prières que les gens connaissaient par cœur et qu'ils priaient ensemble, par le chant, mais pas seulement. Donc, voyez, pourquoi est-ce qu'on peut dire notre Père ? Si le Christ nous révèle, nous permet de dire notre Père, c'est parce que lui, il est le Fils du Très-Haut, il s'est incarné et nous sommes donc ses frères. Et donc, selon la nature humaine. Mais nous ne sommes pas fils du Père de la même façon que lui. Lui, le Fils naturel. Mais nous, rappelez-vous, on est les fils et les filles adoptés. Et c'est pour ces par adoption qu'on peut appeler Père. Lui seul peut dire mon Père parce qu'il est fils selon nature, fils unique. Et nous, nous sommes fils par adoption, adoptés. Donc c'est le Christ qui nous fait rentrer dans la famille divine. Notre Père, rien que ses premiers mots, nous parle de famille. C'est pour ça, rappelez-vous, au niveau de la vision de Josué, nous sommes une famille qui célébrons la présence de Dieu, manifestons son amour, incarnons son royaume. Mais d'abord une famille. À quoi servirait-il d'incarner quoi que ce soit, d'avoir toute la puissance et les prodiges, si nous ne sommes pas d'abord des fils et des filles et une famille. Donc l'identité est tellement importante. Et cette prière, elle ravive l'identité. Voilà, donc il y a Bonhoeffer, c'est un théologien allemand, qui a résisté au nazisme, qui d'ailleurs a été exécuté. Il a dit ceci, il a beaucoup réfléchi sur la communauté, sur le fait d'être ensemble, d'être une famille. Et il disait, une communauté chrétienne signifie une communauté par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie d'abord que le chrétien a besoin d'un autre à cause de Jésus-Christ. On a besoin d'un autre. Ensuite, qu'un chrétien ne vient à l'autre que par Jésus-Christ. Et enfin, que nous avons été élus de toute éternité en Jésus-Christ, accueillis dans les temps, réunis pour l'éternité. Pour avoir une relation juste avec quelqu'un, on a besoin de Jésus, passer par Jésus. Donc Jésus est celui qui soude cette communauté. Alors dans cette prière, on continue. J'aimerais faire une remarque. Vous avez, moi, il y a quelque chose d'étonnant. Regardez, on a lu, au début, il est dit, regardez, soulignez cette différence. Regardez, notre Père qui es aux cieux, bon. Que ton nom, ton, soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'est tu. Voyez ? Et ensuite, donne-nous aujourd'hui, hein, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous. Il passe du tu au nous. Il y a deux registres dans cette prière. Et ça nous parle vraiment de ce que Dieu veut, comment il veut que l'on prie. Alors, les deux registres se complètent. Le premier registre, il déclenche la bénédiction pour le deuxième registre. Le premier registre, c'est le registre, je dirais, pastoral. Dieu qui prend soin de nous. Hein? Dieu qui prend soin de nous. Et puis, ensuite, l'autre registre, c'est le registre apostolique. Il ne s'agit plus de nos besoins à nous, il s'agit des besoins de Dieu. Et donc, il y a un côté, ce dont on a besoin pour nos vies, dans notre Père, hein, notre pain quotidien, tout ça. Et puis, d'un autre côté, le projet de Dieu pour les besoins de Dieu lui-même. Donc là, déjà, dans la prière, on voit prière pastorale et prière apostolique. Et en tant qu'Église, il y a une dimension apostolique qui doit être nécessaire dans nos prières. Et si, quand nous prions, la prière, ce n'est pas seulement pour nos besoins. La prière, c'est capter les besoins de Dieu. Et on part souvent de nos propres besoins. Mais tout d'un coup, le cœur s'élargit, les yeux s'illuminent. Et on parle ce que Dieu dit. Et on prie ce qu'il prie. En fait, Dieu veut prier. Le Saint-Esprit veut prier au travers de nous. Donc, un centre apostolique doit être nourri par une prière apostolique. Un exemple de prière apostolique dans Notre Père, mais dans Acte 4, par exemple. Vous avez, donc, après, je cite, hein, « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu leur voix tout ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Et les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. » Donc là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils citent les Écritures. Donc là, c'est aussi la prière que Dieu veut nourrir en nous, elle se nourrit des Écritures. Il y a une place pour la prière spontanée. Il y a une place, Seigneur. Au jour le jour, tu es à ton volant, tu pries, tu t'adresses à Dieu. Il y a bien sûr une place pour la prière spontanée. Bien sûr. Mais la prière spontanée, ça ne peut pas durer tellement longtemps. On ne dure pas avec ça. Par contre, Dieu a donné d'autres formes de prière. Et la parole, prier la parole, c'est aussi une autre forme de prière. C'est celle que Jésus a utilisée très souvent. Donc ça veut dire que prier, c'est prier avec la parole. Donc voilà, il cite la parole. En effet, ton serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, miracles, prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voilà une prière apostolique nourrie de la parole et qui a une vision plus large que son propre besoin, qui a une vision de la ville, qui a une vision du pays, qui a une vision des perdus. Et verset 31, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole avec assurance. Une prière apostolique, ce n'est pas une prière des apôtres, une prière apostolique, c'est une prière de l'Église entière. Ça, c'est ce qu'on appelle une prière apostolique. Une prière de l'Église pour les besoins du monde. Donc, la prière pastorale, je m'adresse à Dieu et il me remplit. Il me remplit de son esprit, mes besoins personnels, guérison, consolation, renouvellement, rafraîchissement. Et ça, c'est nécessaire. Et la prière apostolique, c'est cet esprit qui est là pour une mission de l'esprit. Et c'est la proclamation d'évangile, les signes, les prodiges, l'humanité, la mission que Dieu nous donne. Voyez, donc il faut que nous soyons bénis pastoralement et que nous soyons bénis apostoliquement. Apostolique, ça veut dire être envoyé, aller. Hein, voilà. Donc ça me semble vraiment important. Une autre parole apostolique, elle déclenche des mouvements de troupes aussi. Tout à l'heure, on avait une bonne définition de la prière comme un combat. Et vous savez, vous connaissez Daniel qui a prié et puis l'ange qui vient et qui dit « J'ai entendu tes prières, à cause de tes paroles, je viens. » C'est quand même incroyable cette histoire. L'ange, il dit « Je viens, non pas, c'est pas Dieu qui m'a seulement envoyé, mais à cause de ce que tu as dit, à cause de ce que tu as prié, je viens. » Donc la prière déclenche. On n'a pas d'autorité sur les anges, mais quand on prie, on déclenche l'activité angélique. Et ça, c'est incroyable. Il y a des... Dans le monde spirituel, on devrait avoir des yeux ouverts. Quand on prie, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça que notre vision, c'est vraiment cette maison de prière, la tente de la rencontre. Mercredi soir encore, l'équipe a eu un bon temps, j'ai appris. Ici, et vraiment, on espère que à partir de septembre, il y a d'autres créneaux qui vont se mettre en place. Une église qui prie, attire les anges, attire les anges. Voilà, donc... les anges sont les exaucements de nos prières, mais quand on prie, on est aussi l'exaucement nous-mêmes. On peut être l'exaucement, tu peux être l'exaucement de ta propre prière. Et voilà. La prière apostolique, elle déclenche aussi, et ça c'est étonnant, on le voit dans les Écritures, elle déclenche des jugements, hein, non pas pour terrifier les gens, mais des jugements sur les puissances spirituelles. Donc la prière apostolique, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, il y a un alignement qui est proclamé et je peux vous assurer qu'il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose. Nous sommes en été, nous sommes dans des temps où on peut souffler un peu, le rythme n'est pas le même, mais le mois de septembre revient avec les combats, avec les défis et je crois que le Seigneur veut nous ancrer dans son intimité, voilà, dans cette vision de la prière et de l'autorité que nous avons. Alors, tout à l'heure, il y a eu dans les définitions, on a parlé de la prière de supplication, on a parlé de la prière pour les nations. Il y a plein de sortes de prières. On ne va pas faire le détail, mais prière de soumission, ça commence par là. Quand je prie, Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Vous voyez, on se soumet au Seigneur. Il n'y a pas de prière sans soumission. Hein, ça commence par la soumission. La soumission, c'est l'adoration. Ça va avec l'adoration. Que ta volonté soit faite d'abord dans nos vies. Ça commence par là. Donc voilà. Ensuite, la prière de communion. et la communion avec Dieu. On fait un avec lui, on est unis avec lui. Et on commence à ressentir ses fardeaux, on commence à ressentir son cœur pour telle situation. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Prière de position. On commence à se positionner spirituellement entre les cieux et la terre. C'est le rôle de sacrificateur. Et on commence à attirer les choses du ciel sur la terre. Et nous sommes positionnés entre le trône de la grâce et celui du jugement. Voyez. Et donc ensuite, il y a la collaboration. On ne sait pas ce qui va se dérouler dans un temps de prière. Rappelez-vous nos tabernacles de louanges. On commence par adorer une heure, deux heures, et tout d'un coup, il y a un fardeau pour le pays, il y a un fardeau pour le gouvernement, il y a un fardeau pour la ville. Et là, on commence à changer de ton. Et on commence à passer dans la proclamation, dans l'intercession, dans la collaboration avec ce que les anges y font. Et c'est là que souvent les danses, les actes prophétiques s'alignent avec le ciel. C'est pas du folklore. C'est pas du folklore. C'est un alignement avec le ciel qui est tellement, tellement important. Et puis, la proclamation, hein, ouvre ta bouche, je la remplirai. Et on commence à... Et cette proclamation, j'aimerais le dire, et pour les chantres aussi, c'est pareil, c'est que plus on est nourri de la parole, plus dans les temps d'onction, la parole peut être libérée. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et sinon, on est bloqué dans la proclamation. On est bloqué dans... Et c'est déjà bien. Alléluia, merci Seigneur, tu es bon, ta bonté durera toujours, voyez. Mais le Seigneur voudrait déclencher des rivières des Écritures dans les temps d'onction et de prière. Et Jésus, il connaissait la parole. Tous les disciples connaissaient la parole. Les pères de l'Église connaissaient la parole par cœur. Et quand ils priaient, c'était mélangé, pétri de paroles de Dieu. Et c'est pour ça que je vous invite, la notion de lecture de la parole de Dieu, les fondamentaux du chrétien, lecture de la parole de Dieu et la prière, et les deux vont ensemble. Sinon le reste n'est pas bâti sur du solide. Et puis on arrive à la prière apostolique, qui est une prière persévérante. Et je rappelle l'objectif, je pense, la francophonie, c'est quelque chose de beau, parce que Dieu entend prier le français toutes les heures de la journée. Puisque le soleil ne se couche pas. Nous sommes la langue dans le monde sur laquelle le soleil ne se couche jamais. Il y a toujours des francophones qui prient. S'ils prient la journée, alors si vous priez la nuit, encore plus. Mais je trouve ça extraordinaire. Donc il y a une prière 24 heures sur 24. Et je me rappelle, vous connaissez tous cette histoire du comte Zinzendorf, qui en Allemagne accueille des réfugiés des guerres de religion de l'actuelle République tchèque. Et les frères Moraves, ils les accueillent chez lui. Et il avait mis en place des écoles chrétiennes avec un hôtel de prière 24 heures sur 24. Et cette conjugaison école chrétienne et maison de prière, ça a donné quelques années plus tard les premiers missionnaires du protestantisme qui sont allés jusqu'aux extrémités de la terre, les frères Moraves. Et donc ces deux, vous voyez, éducation, présence de Dieu, adoration, intercession, les deux conjugués. Ça bouleverse le monde. Ils sont allés jusqu'au Groenland, ils sont allés jusque dans les territoires d'Amérique. Beaucoup ont donné leur vie. Et ça a été ce ferment de la prière avec une éducation qui ont changé les nations. Donc voyez là, on a introduit un petit peu notre Père, le mot Père, tellement important. La révélation de Jésus, Abba. Personne n'avait osé prier comme ça avant. Et non seulement Jésus nous montre comment prier, mais il dit, tu peux l'appeler aussi comme ça. Proximité de Dieu. Combien de fois on n'ose pas prier parce qu'on se sent coupable, parce qu'on se sent indigne, parce qu'on dit, Dieu va me jeter là. Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que je n'ai pas fait, voyez, on est toujours comme ça. Et ça fait des semaines que je n'ai plus prié. J'ose plus, tu vois, j'ose plus. Je n'ai pas lu ma Bible depuis plusieurs jours. J'ose plus prier, quoi. Et cette image du Père, elle est fausse. Dieu, il attend que ça. Eh bien, mon coco, viens. Je ne te condamne pas. Viens, viens. Je suis Abba. Je suis le Père qui te prend sur mes genoux. Et tu es mon fils, ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. Et je rappelle le mot affection. C'est l'affection d'un père à ses enfants. Donc voilà, c'est ce Dieu-là que l'on prie. Et ce Dieu-là qui veut être en communion avec nous. Donc rappelez-vous le message de la semaine dernière. Un cœur à cœur avec nous. Et dans ce cœur à cœur, Dieu remplit nos cœurs par le Saint-Esprit. Il change nos vies. Et dans notre Père, il y a ce Abba. Un immense privilège pour le chrétien. Immense privilège. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Allez, vous rendez compte de ce privilège? Merci, Jésus. On veut simplement prier un temps. Merci, Seigneur. Seigneur, tu es Abba, notre Papa. Merci pour ce privilège de t'appeler comme ça, Seigneur. Rien ne nous sépare de cet amour de Père. Seigneur, réactive en nous le désir de prier, d'être en communion avec toi, Seigneur. Fais-nous passer d'une prière pastorale à une prière apostolique, Seigneur, qui va au-delà de nos propres besoins et qui porte les besoins du Père et qui prie ce que toi tu pries, Seigneur. Merci, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, une église qui prie. Alléluia. Merci. Qui prie pas non par légalisme, par il faut, mais qui prie par amour. Alléluia, Jésus. Intensifie ta présence, Seigneur, pour chacun de nous. Merci pour la bonté du Père. Alléluia. Notre Père. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Dimanche prochain, on verra un peu plus loin dans les prières de Jésus. Et on va creuser un peu ensemble. Et que ça nous aide à nous enraciner dans sa bonté. Dans sa bonté. Amen. Dieu est bon.